Bonsoir.
Ce type avec un casque dans mon studio, dans mon émission. Bonsoir Pierre Bouteiller.
Bonsoir Kathleen Evin.
Allez, dois-je l'avouer, en fait ce soir pour moi c'est carrément mission impossible. Pourtant, si j'en crois nos meilleurs amis les psys, j'ai sûrement dû en rêver au moins une fois à ce fameux meurtre du père. Vous savez bien de quoi il s'agit, Pierre, s'asseoir un jour dans le fauteuil du prof et lui faire passer son bac. Quoi qu'il en soit, il faut bien que je m'y colle, puisque ce soir, je reçois, avec un plaisir non dénué d'une certaine inquiétude, l'homme à qui je dois d'être là aujourd'hui. C'est en effet Pierre Bouteiller qui m'a, en septembre 1988, présenté à mon premier micro et forcé, je peux enfin le dire, forcé, oui, à laisser parler mon mauvais fond en me confiant des chroniques politiques que certains ont de façon un peu exagéré, qualifié de vipérine, et qui nous ont valu, souvenez-vous, quelques jolis procès, tous gagnés, précisons-le. Car il est ainsi, Pierre Bouteiller, non seulement radioactif, comme il est écrit sur la couverture de son livre de souvenirs paru chez Robert Laffont, mais en plus contagieux. Et comme il a sévi sur cette radio de 1964 à 2004, vous imaginez aisément toutes les mauvaises graines qu'il a pu y semer. Et nous allons quand même lui rouvrir l'antenne, au bénéfice du tout, comme de bien entendu.
J'aurais tant de choses à perdre si tu partais. Tant de choses à faire pour t'oublier. J'aurais tant de choses à perdre si tu partais. Tant de choses à faire pour t'oublier. Perdre les contours de ton ombre chinoise. Quand au bout du jour, le ciel blanc s'ardoise. Faire feu de tout bois pour incendier la nuit. Mon corps que tes doigts déserterait sans bruit. J'aurais tant de choses à perdre si tu partais. Tant de choses à faire pour t'oublier. J'aurais tant de choses à perdre si tu partais. Tant de choses à faire pour t'oublier. Perdre le beau temps des lèvres que l'on frotte. La trace de tes dents au creux de mon épaule. Me faire du bien du mal pour exister un peu. Un long carnaval pour masquer mes yeux. J'aurais tant de choses à perdre pour retrouver de nouveaux enfers d'anciens quartiers. J'aurais tant de choses à perdre pour retrouver ton amour offert éparpillé, éparpillé. Tant de choses à faire pour t'oublier.
Pierre Bouteiller, bonsoir. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Comment allez-vous ?
Jusque-là, ça va. J'espère survivre.
Ça vous fait quel effet d'avoir un casque sur les oreilles, un micro devant vous ?
Bon, la routine.
La routine. Bon, allez, vous êtes ému, je le vois bien. Je vais vous dire, ça fait commencer. Hein, parce qu'alors, il m'est arrivé une chose absolument épouvantable. Je me suis dit, non, s'il vient, ça va être une entreprise de cirage de pompe absolument épouvantable. Comme il y a un reportage dans cette émission, j'avais cru trouver la solution. J'ai demandé à un reporter qui n'était pas là lorsque vous étiez là, d'aller promener son micro et de ramasser ce qu'il entendait sur les souvenirs que vous avez laissés. Antoine Lee a donc s'est collé à ce reportage souvenir, mais il a eu la mauvaise idée d'aller parler à Ariel Wiesman, à Richard Hulot, à Gérard Lefort, à Catherine Pancol, et je suis catastrophée.
Entre ici, Pierre Bouteiller.
Bonjour.
Si je devais raconter une anecdote, ce serait de raconter pourquoi son émission s'appelait « Quoi qu'il en soit ». Un jour, je crois que c'était à Marseille, une sorte de chanteuse un peu demi-mondaine doit se présenter sur scène et le monsieur Loyal l'annonce et lui dit « Et maintenant, j'ai l'honneur d'annoncer sur cette scène Mademoiselle Trucmuche ». Et là, dans la salle, il y a un Marseillais qui fait « Je la connais, c'est une pute !» Et là, le monsieur Loyal s'incline et se relève et dit « Quoi qu'il en soit, elle va nous interpréter, etc. » Et dont il a tiré le titre de son émission de radio, ça résume tout à fait son humour, quoi. C'est tout à fait ça.
D'un commun accord, comme je vous le disais tout à l'heure avec Woody Allen lors de l'entretien enregistré au Ritz, eh bien on a décidé de ne parler que de musique, que de jazz et de ne pas parler de ce véritable règlement de compte à OK Allen que constitue son dernier film, parce qu'effectivement on connaît les questions, on connaît les réponses, on connaît la chanson et vous allez l'entendre dans un instant, Woody Allen me dit qu'il était un peu las de toujours les mêmes questions qu'on lui pose. Quelles sont ces questions ? Bien les voici.
Par exemple, vous êtes très proche à Harry, mais vous et moi pouvons parler au sujet de la musique et ça serait mieux.
Oui, j'allais le faire.
Moi, j'ai connu Pierre Bouteiller en 1969 et j'ai commencé à travailler avec lui en 1970. J'avais donc 24 ans.
C'était pour quelle émission à l'époque ?
Alors, c'était pour le fameux magazine de Pierre Bouteiller. Que nous allions changer de titre, mais ça peut... Si, on peut le dire, ouais, parce qu'on s'amusait à dire le sac à pines de Pierre Bitrouillet, ce qui était assez intéressant, quoi. Là, il laissait faire exactement tout ce qu'on voulait. Un exemple concret, c'est Bernard Deutsch qui est rentré un soir, enfin, un petit matin, il est arrivé au petit matin en disant bah, « Je suis allé au café de théâtre hier soir, je suis tombé sur un mec, bah, je vais te faire écouter, si ça te fait rire, on le passe ou pas ?» C'était Coluche. Tout de suite, le flair, il disait « Ça, c'est excellent, ça le faisait rire, c'est quelqu'un qui osait. » On n'avait pas encore passé ça sur Inter, qu'il y avait encore quand même un pouvoir de droite. C'était à ce moment-là, c'était Pompidou. Non, c'était pas encore Giscard, c'était Pompidou. Il y avait une censure qui existait.
Et du côté du rock, ça ne s'arrange pas.
Du côté du rock, bruit, hein. Du côté du rock, il y a toujours autant de bruit. Du côté du rock, il y a la mode. Bon, la mode, c'est la punk musique.
On dit punk ou on dit punk ?
On dit punk.
Pierre, quand il animait l'émission Le Masque et la Plume, on avait parfois l'impression qu'il s'assoupissait pendant que les critiques parlaient. Mais il faut se méfier du serpent qui dort ou du caïman qui dort, je ne sais pas, le crocodile. C'est au moment où on croit qu'il est le plus assoupi, c'est là qu'il se réveille, que généralement il est assez mordant tous les sens du terme. Et il mourrait pour un bon mot, Pierre Bouteiller. Et j'aime bien les gens. Enfin, c'est son champ d'honneur à lui, voilà. Pour un bon mot, il serait prêt à tout. Et il en faisait beaucoup en aparté, par exemple, dans Le Masque et la Plume. C'est-à-dire hors micro, il a évidemment aussi ce que c'est qu'un micro de radio. Donc il arrivait à mettre la main sur le micro pour que les auditeurs n'entendent pas. Et généralement, il pouvait glisser une vanne, pas possible. Enfin, des choses de presque de collégien. Mais je trouve que c'est son charme aussi d'avoir gardé cet esprit un peu frondeur et potache, moi que j'adore. Enfin, voilà un homme grave qui ne se prend pas au sérieux.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je sabote. Je mets des clés sur le piano.
Et ce sabotage était signé Pierre Bouteiller.
J'ai fait ça, c'est pas seulement pour faire une farce. Si j'ai mis des clés sur le piano pour faire ce son horrible, c'est parce qu'il y a des gens qui le font sérieusement, qui en font de l'argent, et qui détruisent, qui sabotent cet instrument merveilleux qu'est le piano. Le piano bastringue, ça existe, ça se vend bien. C'est toujours un peu dommage. Quand c'est fait sur le ton de la plaisanterie, avec le recul de l'humour et du second degré, c'est bien. Mais quelquefois, ce sont de vrais pianos qu'on détruit et ça fait mal au cœur.
Bah, il a une voix à la fois Jean-Pierre Belmar, bonjour, donc assez grave, impressionnante, et puis très 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 charmeur, c'est quand même un grand séducteur, hein. Puis comme il est malin, il met un petit peu à la fin du bonjour, il mettait un petit peu de caresse, et je pense que toutes les femmes derrière leur radio, elles devaient se dire, il parle pour moi, et ça c'est vrai, par exemple aussi, quand j'allais dans les fêtes du livre, les femmes me disaient toutes, c'est à moi qui dit bonjour, vous le savez pas, mais c'est à moi qui dit bonjour. Tout le monde écoutait Bouteiller, c'était drôle, hein. C'était un fédérateur cet homme, et les gens disaient tout ça, disaient, on vous a vu chez Pierre Bouteiller. Vous voyez, c'était drôle. Oui, je vous vois tous les matins chez Pierre. D'abord, je passais une fois par semaine. Je vois tous les matins chez Pierre Bouteiller. C'est la radio et c'est une fois par semaine, 5 minutes. Vous savez, c'est rare, ça. Il donnait cette présence-là, lui, aux gens. Et le dernier jour, on pleurait hein, dans le studio. Je sais pas si vous... On a chanté une chanson de Dalida, en chœur, toutes les femmes, et on pleurait. On était vraiment... Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça.
Il vient d'avoir une belle promo, il est beau comme tous les dirlos, fort comme Stallone. Mais nous on trinque évidemment, car sur le sable sans ménagement, il nous y colle. On met de l'ordre à nos cheveux, un peu plus de noir sur nos yeux. Ça la fait rire.
Pitié, arrêtez ça. Arrêtez ça, qu'est-ce qu'on a pu chanter faux? C'était en mai 2004 et vous nous quittiez.
Pas tellement faux, mais pas en mesure.
Bon, c'est difficile de chanter déjà, sur Dalida.
Vous chantiez juste, oui.
Non, on chantait moi, en tout cas, je chantais très très faux. En tout cas, Pierre Bouteiller, c'est absolument épouvantable ce reportage d'Antoine Lee. Ariel Wiesmann, Richard Hulot, Gérard Lefort, Catherine Bancol. C'est un sujet, un verbe, un compliment. Hein, tout ce que vous avez pourchassé toute votre vie.
Devant de
moi,
tant
qu'est-ce
de...
que je fais? Je suis accablé, moi.
Devant tant de missiles de gentillesse et de confiture, je ne peux que m'incliner. Je voudrais compléter quand même ce qu'a raconté effectivement
l'histoire
Wiesmann.
D'Ariel Wiesmann sur l'histoire. Quoi qu'il
parce
en
que,
soit.
Parce que la réflexion de l'Alcazar à Marseille, elle a existé vraiment. Il y a des disques d'elle que Averti a passé. Elle s'appelait Clara Tambour. Et c'était maintenant, voici maintenant celle que vous attendez toutes. Clara Tambour, et là, effectivement, la voix, je la connais, c'est une pute. Quoi qu'il en soit, voici Clara Tambour. Il y a des disques de Clara Tambour que Averti possède, bien sûr.
En tout cas, Pierre Bouteiller, les reproches qu'on vous a beaucoup faits, et notamment que vous ont fait beaucoup de directeurs de France Inter ou de présidents de Radio France, quand on voulait se débarrasser de vous, vous changer d'horaire, parce que quand même, 69 et non pas 64, comme je l'ai dit, 69-2004, vous avez pas mal bourlingué sur les horaires de la chaîne, parisien, élitiste et peut-être bien un peu de gauche.
Oui, effectivement, je ne m'en suis jamais caché, même si je n'ai jamais eu une carte d'aucun parti, mais je me sens de plus en plus de gauche, et je l'ai toujours dit. Mais les clivages, vous savez, Kathleen, ne sont pas seulement idéologiques, ils sont surtout professionnels. Moi, je n'oublie pas que ceux qui m'ont soutenu, promu, fait venir, remis en selle, etc., sont des gens dont je ne sache pas qu'ils soient de gauche. Par ordre de rendre en scène, je rendrai hommage à Roland Dordain, gaulliste officiel et proclamé, Roland Faure, militant RPR, et Jean-Marie Cavada, dont je ne sache pas qu'il soit de gauche.
Il est député européen chez Monsieur Bayrou.
Oui. Inversement, les autres, ce que j'appelle dans mon bouquin les touristes, les amateurs, ceux qui ne font que passer, en attendant d'être ou sous le tunnel sous le Mont-Blanc, ou à la RATP, ou à la SNCF, ou bien aux aéroports de Paris avant qu'ils soient privatisés, ces gens-là, ça ne se passe pas bien, qu'ils soient de droite ou de gauche. Le clivage, il est entre professionnels et non professionnels. Alors, effectivement, j'ai eu quelques problèmes, mais ce qu'il faut, c'est tenir, c'est durer et endurer. Et vous avez cité, je voulais vous citer cette phrase de Cocteau, vous me parlez des reproches qu'on m'a exprimés. Effectivement, moi j'aime bien cette phrase de Cocteau, j'aimais beaucoup Cocteau, c'était « ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Donc j'ai toujours cultivé cette différence, je pense que le plus beau slogan qu'on ait inventé pour France Inter, c'est justement « la différence ».
C'est de Roland Dordain, ne l'oublions pas, qui a tout inventé ici, même si depuis il y a eu des dégâts. Et je pense que j'ai toujours revendiqué cette différence, et que, comme le dit Wiseman assez gentiment dans ses reportages que vous avez eu la gentillesse de faire, je sais que je dessers mes intérêts à court terme et matériels pour un bon mot, ou pour ma libre parole et pour ma forte tête. Mais c'est plus fort que moi. Je savais que lorsque j'ai lancé à Gorini, qui était directeur de la rédaction d'Europe numéro 1, ça s'appelait comme ça à l'époque, Europe numéro 1, pour un canular sur De Gaulle, qui refusait de passer. J'ai dit, quand je lui ai dit devant toute la rédaction, vous ne le passez pas parce que vous mourrez de trouille, je savais que je signais mon arrêt de mort, mais il fallait que je le dise. Je savais que j'allais être viré, et j'ai été viré. Pas tout de suite, parce qu'ils sont moins cons que dans le service public, dans le privé. Ils vous laissent courir encore un peu, et ça aurait été trop voyant d'être viré juste après mai 68. Donc j'ai été viré en 69. Comme ça, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une charrette. Mais je savais que j'avais signé mon arrêt de mort en faisant ce canular sur De Gaulle avec Henri Tizot. Enfin, je n'y reviens pas, il n'y a qu'à lire le livre. D'abord, je suis là pour ça.
Oui, il faut lire le livre Radioactif, paru chez Robert Laffont. Il est venu pour faire ça.
Radioactif, pour moi, c'est un pléonasme.
En tout cas, Pierre Bouteiller, c'est vrai qu'il y a un style Bouteiller. C'est pas à vous que je vais demander de le définir, parce que c'est un exercice un peu délicat. Mais c'est vrai que dans une radio, par rapport à une radio privée, cette radio qui s'est appelée le Poste Parisien, Radio Inter, puis
Paris Inter,
ouais. Puis France Inter. C'est vrai qu'à la différence des radios privées, des radios commerciales, les auditeurs sont habitués à entendre des voix plus que des émissions. Est-ce que vous avez ressenti ça comme un bienfait, finalement, quand vous avez quitté Europe et que vous êtes rentré dans le service public? Est-ce que vous avez eu le sentiment, curieusement, que c'était vous aviez une plus grande liberté?
Eh bien, paradoxalement, oui. Puisque, vous savez, dans l'inconscient collectif, il y a des schémas un peu réducteurs du genre... radio gouvernementale, radio publique donc égale radio d'État égale radio gouvernementale. Enfin, on en revient presque à Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Et inversement, on se dit, la radio privée, c'est la liberté. Ce n'est pas aussi simple, Catherine, et vous le savez. Parce que lorsque un poste privé est une filiale parmi d'autres, d'une holding qui, par ailleurs, vend des avions et des fusées à un seul client, à savoir l'État, la pression est beaucoup plus facile à exercer. Quelqu'un déplaît dans un... déplaisait, c'était, je vous parle ça, il y avait 40 ans. Il y a eu du progrès, sûrement, depuis. Mais lorsqu'on vend des avions et des fusées à l'État, et que dans une radio dont vous contrôlez le capital à près de 100%, il y a un persifleur qui énerve le pouvoir, c'est très facile pour lui de dire, écoutez, vous voulez qu'on continue à acheter vos produits, vos avions, vos engins, mettez donc ce trublion à la porte. C'est beaucoup plus facile, alors que dans le service public, c'est long, c'est pas qui fait quoi, c'est le bordel, il y a plein de gens, son nombre le temps que la décision redescende.
On a changé de gouvernement,
alors il faut tout reprendre, c'est compliqué. Donc, c'est pas aussi simple. Je ne veux pas être angéliste, je ne dirais pas que la liberté est totale dans le public, la liberté est absolument nulle dans le privé, ça a beaucoup évolué. Mais j'ai constaté qu'effectivement, grâce à des gens que j'ai déjà cités tout à l'heure, des gens comme Dordain, Roland Faure ou Cavada, qu'avec les professionnels, quelle que soit leur position politique, dès lors qu'ils avaient quelqu'un dont ils pensaient à tort ou à raison, j'espère que dans mon cas c'est à raison, qu'il avait un peu de talent, qu'il faisait de l'audience, qui était mon cas, et qu'il faisait une émission à peu près correcte, eh bien on lui passait tout et je me suis fait aucune illusion. J'ai aussi servi d'alibi, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on accusait les présidents de cette maison d'être à la botte du gouvernement, il pouvait dire, mais regardez, on a cet irresponsable de Bouteiller qui tient des propos scandaleux, qui parle des diamants de Giscard, des chasses à cour de Giscard, qui parle de la garantie foncière, qui parle de tous les scandales, etc. Enfin bon, donc je servais d'alibi sous la droite, ou bien sous la gauche, ça se passait bien pour d'autres raisons.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Une spéciale dédicace pour vous, cher Pierre Bouteiller. C'était Chet Baker, My Funny Valentine, parce qu'en fait, le jazz que vous adorez, c'est grâce au jazz que vous avez commencé à vous intéresser de près à la radio, grâce à Europe numéro 1 et à Franck Thénault et Philippe Aki, et Daniel Philippe Aki.
Oui, oui, je suis venu à la radio par la musique et à la musique par la radio, puisque j'ai toujours écouté la radio, même dès mon enfance, ainsi que je raconte dans ce petit bouquin. Et effectivement, dans les années, fin des années 50, on a découvert avec des amis un poste qui diffusait 2 heures de jazz par jour, à 22h à minuit, une émission qui s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz », Thénault Philippe Aki, et les étudiants fauchés que nous étions alors, ben on se réunissait autour du poste, on faisait des spaghetti parties, on écoutait cette radio extraordinaire qui nous diffusait les disques que nous n'avions pas les moyens d'acheter, bien entendu. Chet Baker, entre autres, Jerry Mulligan, Bud Powell, Stan Kenton, Count Basie, Oscar Peterson, Bud Powell, que sais-je encore, les plus grands. Et c'était un bonheur. Et je me suis aperçu quand même que, à part ces 2 heures de jazz, il y avait également 22 heures aux autres d'antenne qui étaient tout à fait intéressantes. Je me suis mis à écouter et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une émission qui s'appelait La Coupe des Reporters, qui était à la fois une émission de programme, de variété, mais aussi un concours pour recruter de jeunes journalistes. Et c'est comme ça que je suis entré par la toute petite porte à Europe numéro 1. Je dis bien numéro 1, ça s'appelait comme ça à l'époque. Après avoir passé différents tests, 16e, 8e, quart de finale, demi-finale, finale, et j'étais engagé, la récompense suprême était, entre guillemets, l'engagement dans la station.
Et vous avez eu le droit de vous appeler Paul Pelletier, comme beaucoup d'autres.
Et oui, il faut expliquer pourquoi. Parce que on essayait beaucoup de jeunes, mais il y en a qui ne donnaient pas satisfaction. Et vis-à-vis des auditeurs, ça aurait fait des ordres qu'il y ait des noms qui changent tous les jours. Alors, plusieurs s'appelaient Paul Pelletier, plusieurs s'appelaient André Arnault, plusieurs, etc., s'appelaient, etc. Et parce qu'on me disait, comme ça, on avait l'impression que c'est toujours le même si la voix changeait, mais bon, ils ne s'en rendaient pas compte, les auditeurs. Ils disaient, oh, ça faisait quand même un peu plus sérieux. Et moi, je me suis appelé Paul Pelletier pas longtemps. J'ai, comme ils m'ont engagé, ils m'ont donné mon nom. André Arnault, qui s'appelait en fait Maurice Denuc, a gardé le nom d'André Arnault. C'était d'ailleurs, je fais une parenthèse, un personnage, André Arnault, on l'appelait Radio Cassoulet, parce qu'il avait l'accent de, comme ça, sud-ouest. Et il était extraordinaire, il était très nerveux, il buvait un coup de scotch avant de faire Europe Midi. Et c'était un personnage, il y avait des personnages à l'époque. André Arnault, je vous fais une anecdote qui n'est pas dans le livre. Il habitait rue Pierre-Nicole, qui est derrière le Val-de-Grâce. Il avait 2 appartements. Il habitait la semaine un appartement et le week-end, il passait dans l'appartement d'en face. Il partait un week-end en restant dans sa rue. Mais c'est des personnages qu'on n'imagine pas, ça. C'est une époque incroyable. Il y avait aussi Albert Ducrot, qui était le spécialiste de l'espace. Et Albert Ducrot avait un défaut de prononciation. Il ne pouvait pas prononcer les C. On l'appelait d'ailleurs Albert Dutrot entre nous. Il disait, oui, les soviétiques et les américains. On va envoyer un Vostok et un Sputnik. Alors déjà, on se marrait. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que il dit, il était fou furieux de cette passion pour l'espace et il disait, oh, Jean Corini, je donnerais 10 ans de ma vie pour assister au lancement du premier homme dans l'espace. Et un jour, Gorini, directeur de la rédaction, lui dit bah, « Écoutez, on vous a un billet pour aller à Cap Canaveral, ça s'appelait Canaveral à l'époque, pas encore Cap Kennedy. Si vous voulez, vous allez assister à un lancement. » Il dit « Ah non, je ne veux pas prendre l'avion, j'ai trop peur. » C'était Albert Dutroux.
Alors, on a l'impression que vous nous racontez...
Bref, on se marrait.
Vous nous racontez les belles histoires de l'oncle Pierre, et c'était pas déjà le temps de la marine à voile, mais c'était bien avant ça. On entendait ces choses-là, peut-être.
Revoir Paris, en revenant du midi, de Normandie, de la Baule ou d'Annecy, ça fait plaisir de retrouver tout ce qu'on aime, la vie de Bohème ou les avenues de Passy, les petites lumières des boutiques familières, on se dit bonjour.
Alors vous êtes de retour.
On vous connaît sans rien demander, on sort pour vous les donner d'un rayon d'or des mains Premior.
Chaque jour, Premior. Premior, notre vin quotidien.
Un petit souvenir que j'avais piqué à notre camarade Vladimir Don. En fait, la musique et les paroles sont de Charles Trenet.
Oui.
Vous auriez dû reconnaître.
J'ai reconnu le thème, j'ai reconnu la mélodie, pas le tempo parce qu'il est beaucoup plus rapide, mais j'ai reconnu. J'ai une anecdote sur Antoine Blondin, dont on peut parler ici, puisque
c'est quand même le spécialiste des verres de contact.
Voilà, absolument, oui. Et Antoine Blondin, qui est quand même, vous lui rendez hommage chaque soir avec l'humeur vagabonde.
Bien sûr.
Et un jour, il était dans le prix littéraire Pierre de Monaco. Il y avait toujours un grand déjeuner avec le prince. C'était du temps du prince Régnier. Il y avait toujours des moutons Rothschild, du Château Margaux, même du Pétrus. Et un jour, il était complètement pété, c'est presque un pléonasme, il a dit, je ne sais pas s'il a compris, à Régnier, vraiment, c'est ce qui est le vin qui me fait penser, ses primeurs, il m'a dit, vraiment, à Altesse, votre vin du rocher, c'est le velours de l'estomac. C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique. Allez, on continue le petit quiz.
J'ai donc tourné à Hollywood Une vie de Richelieu qui a très bien marché. Et c'est à la suite de ça que j'ai tourné Richelieu chez les nazis, Richelieu sur les traces de Frankenstein, avec Boris Karloff, et 20 000 Richelieu sous les mers. Oui, avec Cousteau, et un Richelieu à Paris avec Crosby. Et alors c'est vraiment ce film qui, pour vous, a marqué le départ. Ah bah pour moi ça a été le départ idéal, le grand départ, puisque le jour de la première c'était un véritable exode dans la salle. Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute, l'huile laitière est trois fois meilleure.
Bon alors vous savez qui c'était.
Oui, je les ai reconnus, bien sûr, Poiré et Sérou, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Qu'ils avaient fait cette pub-là. Ça, grâce à vous, je découvre plein de petits bijoux.
Vous les adorez, ces réclames-là, alors que vous êtes assez en colère contre les publicités, et notamment celles qui enlaidissent notre antenne. Parce que, curieusement, on n'a pas de publicité et on arrive à avoir les plus mauvaises.
Non, c'est très compliqué. Je pense que, là je redeviens sérieux 30 secondes, je pense que le dernier endroit de service public, c'est la radio. C'est ici. Parce que la publicité, elle existe sur France 2 et France 3, puis les malheureux sont obligés de se financer à entre 42 et 45% par la publicité. Donc le dernier endroit où dans le budget global, il n'y a pas pratiquement de pub, c'est ici. C'est à Radio France et à France Inter en particulier. Effectivement, il y a, comme vous le soulignez, puisque vous m'engagez à en parler, je peux le faire, tant pis pour vous, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la collective ou l'institutionnelle. Mais le problème de la collective, c'est qu'il faut mettre d'accord des dizaines, pour pas dire des centaines d'intervenants, par définition, sur une collective. Donc, on trouve toujours le plus petit dénominateur commun. Il y a des pubs de marque qui sont pas mal. Après, on vient d'en entendre deux ou trois, puis il y en a plein de très bonnes pubs de marque. Mais la pub collective institutionnelle, on a l'impression qu'elle encombre de plus en plus les antennes parce qu'elle est très mauvaise. Et j'ai l'impression que, sans être vulgaire, au lieu de se prostituer une seule fois comme une call girl en allant au Ritz une fois par an, on monte tous les soirs pour 3 francs 50. Quoi.
Je vois que vous n'avez pas perdu votre langue de vipère, mon cher Pierre Bouteiller. Et justement, je vais vous faire entendre Ariel Wiesmann, qui, le jour de notre dernière émission, tout en riant, disait que finalement, vous fréquentez, c'est pas sans risque.
Je voulais simplement apporter un tout petit bémol dans ce concert de louanges, dans cette espèce de consensus quasi hystérique et fusionniste, et dire simplement que tout à l'heure, vous nous avez traité très discourtoisement de semi-chômeurs. J'ai trouvé ça terrible, d'autant que depuis l'annonce de votre départ, j'ai eu énormément de propositions.
Barman au Queen ?
C'était extrêmement curieux, donc j'en citerai juste quelques-unes. Catherine Lara, qui me propose de la rejoindre dans sa nouvelle émission sur TF1. Pierre Belmar, qui me propose de présenter certains articles sur sa chaîne de téléachat. Et puis j'ai un projet qui concerne l'art lyrique avec Paul Loussulitzer, mais là-dessus je resterai extrêmement secret. Malheureusement, il faut le dire, le fait d'avoir travaillé avec Pierre Bouteiller est parfois un obstacle dans certaines chaînes ou sur certains médias. Ah, vous avez travaillé avec lui, sous-entendu. Bon, je n'en dirai pas
plus. Ça s'attrape.
Alors, je voudrais dire aussi que, évidemment, les gens imaginent une atmosphère de fête, de liesse, de délire. Pas du tout. Les visages sont fatigués, témoignent d'une certaine lassitude. Les gens se forcent, un peu comme à la radio nord-coréenne, à avoir le sourire. Et c'est vrai qu'on regarde les minutes passées et on attend que commence l'air le fort. Et c'est vrai que les gens qui vous aiment bien, eh bien qu'ils écoutent France Musique.
Et voilà, c'était le jour de la dernière émission sur France Inter en mai 2004. Vous avez... Non, c'était bien avant, bien sûr, que je suis sotte. C'était lorsque vous avez été nommé à France Musique.
Non, ça devait être le 1er avril 1999, si j'ai bonne mémoire. Je crois, ça doit être ça. La dernière séance, c'était ça. Oui, Wiesmann, écoutez, je suis gêné par tant de gentillesse, mais c'est vrai que j'ai pu porter malchance à certains. Mais enfin, les gens qui ont travaillé avec moi ne sont pas trop mal sortis. Commencer par Wiesmann.
À vue de nez. Hein?
Mais j'y suis pour rien, c'est leur talent, c'est le vôtre, c'est celui des autres, qui le fort, etc. Je ne vais pas citer tout le monde, mais tant mieux. Hein.
Assis sur un banc devant l'océan, devant l'océan égal à lui-même, un homme pensif se masse les tifs, interrogatif, à quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il, livré à lui-même? Il pense à son île, Hélène. Est-ce que l'île l'aime? Assis sur un banc devant l'océan, l'océan jamais tout à fait le même, dans le bruit lascif autour des récifs que la vague enchaîne. À quoi rêve-t-il l'éternel bohème? Il rêve à une île dont le littoral a le pur profil de l'amour total. Sur sa joue, il pense que l'amour c'est vous mettre en joue. Bon, bon, bon. Il pense surtout devant l'océan. Belle esclave bleue qui remue ses chaînes. Il pense à son île, Hélène. Est-ce que l'île l'aime? Pense-t-elle à son île?
De Nougaro, l'île Hélène, ça fait du bien, hein, Pierre Bouteiller.
Oui, Nougaro, ça faisait partie du fond de sauce, entre guillemets, du programme musical qui accompagnait mes différents magazines. C'est vrai que j'ai toujours un peu privilégié ce qu'on appelle la chanson de qualité. Oh, j'ai aucun mérite, ça s'imposait tellement. J'en parle à l'imparfait, puisqu'hélas, il n'est plus là, mais pas seulement lui, mais tous les gens que je programmais dans ce magazine, qu'il soit appelé Embouteillage, quoi qu'il en soit, au bénéfice du doute, que sais-je encore, je me faisais une playlist à moi, c'est-à-dire que j'ai toujours privilégié, ça m'a valu beaucoup d'emmerdes à commencer par Europe, puisque moi je préférais passer effectivement des gens comme Nougaro, Yves Montand, Jacques Brel, Jean Ferrat, Nat King Cole, Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin, Barbara ou Juliette Gréco, que les produits maison, parce qu'à l'époque, Europe était mariée avec une maison de disques.
Les disques à Z,
c'était un peu bizarre, oui. En plus, comme le patron des disques à Z était marié à une chanteuse, c'était pas très bien vu de pas passer Dalida. Tant pis. Moi, donc les ennuis ont commencé là. Mais je pense que les ennuis, il faut les commencer très tôt.
Comme ça. S'habituer?
Oui, oui, il faut être viré tout le temps, on rigole, parce qu'avec le recul, c'est formidable. Sinon, on s'encroûte dans une maison, on croit que le monde s'écroule parce qu'on s'en va. Mais dès lors qu'on a connu mes amours, mes amis, mes emmerdes, disait je ne sais plus qui, si, c'était Aznavour. Mais les emmerdes que j'ai eues, je les ai eues dès le début à Europe, et ça vous forge le caractère radiophonique, et une fois qu'on a compris ça. Parce que, vous savez, Kathleen, vous le savez très bien, que une expression de la liberté, un choix éditorial peut s'exprimer pas seulement par la parole, mais par un choix musical. Je crois me souvenir que, il y a 40 ans, dans un studio de la BBC, il y avait un écriteau qui disait « Êtes-vous bien certain que ce que vous avez à dire est plus important qu'un disque des Beatles ?» Je trouve cette phrase formidable. Ça veut dire que choisir tel ou tel disque, c'est un choix éditorial, c'est un choix de programme. Et on peut s'exprimer, pas seulement en faisant l'intéressant comme je fais, en bavardant, coupez-moi quand vous en avez marre, mais en passant tel ou tel disque, c'est un choix. Et moi, je pense que ce que j'ai essayé de faire, passer de la chanson dite de qualité, du jazz et du classique, tous les jours il y avait du classique, mais du classique accessible et pas excluant, c'était aussi un choix éditorial. Bon, on n'est pas forcé de m'imiter, mais enfin, je pense que j'ai pas eu tort, les sondages sont là.
Mais justement, les sondages, lorsque vous étiez directeur des programmes, Pierre Bouteiller, on a connu 12,4% en 1990. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias sont pleins de cette fameuse crise des radios généralistes. On flirte plutôt avec les 9-10% d'audience. Est-ce que, vous, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous êtes plus dans le bain, mais que vous écoutez toujours attentivement tout le monde? Vous pensez quoi de cette fameuse crise des généralistes? Vous pensez que c'est inéluctable, que toutes ces radios sont sur la pente descendante, qu'elles vont vers la fin, que l'avenir est au podcast, à la radio musicale, à la radio de génération?
Oh là là, que de questions. Moi, c'est plutôt l'auditeur qui va vous répondre et pas le professionnel de la radio que j'espère être. Mais j'écoute toutes les radios, je sais beaucoup. Je pense que les radios généralistes ont encore de l'avenir, à condition qu'elles évoluent, ce qu'elles ont toujours su faire, que ce soit les trois grandes, entre guillemets, RTL, Europe, France Inter, ont su évoluer au gré des révolutions technologiques et des changements. Je pense que elles ne sont pas mortes, vous savez. Pendant un moment, on pensait que la radio allait tuer le journal, que le cinéma allait être tué par la télévision, que la télévision allait tuer la radio, que le livre allait être tué par... Tout le monde, c'était une hécatombe, c'était un Tchernobyl médiatique généralisé, que tout le monde allait tuer. Non, ça, on n'en est plus à l'époque où il y avait simplement une sorte de pénurie. Où il y avait simplement sur la bande grandes ondes trois généralistes plus Monte Carlo si on veut. Et heureusement quand Mitterrand a libéré la bande FM, on est passé de la pénurie peut-être au trop plein. Mais ça a forcé les radios généralistes à évoluer et elles continuent à évoluer. Mais je pense qu'effectivement la grande erreur consisterait, on s'en est aperçu dans une radio privée RTL pour la citer, on s'est aperçu que lorsqu'on veut faire d'une radio généraliste une radio générationnelle, qu'est-ce qu'elle soit, ou une radio de vieux, ou une radio de jeunes, peu importe, c'est toujours une catastrophe. Puisque ce qui s'est passé à RTL, on a dit « Ah tiens, on va virer Bouvard parce que ça fait vieux ». Alors dès que Labro est parti, on a dit « On va virer Bouvard, ça fait vieille radio, comme ça les jeunes vont venir ». Résultat des courses. Aucun jeune n'est venu sur RTL, parce que les jeunes, ils ont plein de radios qui sont très bien faites pour eux, très bien formatées, comme on dit. Et non seulement les jeunes ne sont pas venus, mais les moins jeunes sont partis. Et du coup, on a fait revenir Bouvard. Alors, je pense qu'on devrait s'en souvenir parfois avant de se lancer en expérimentation un peu hasardeuse.
Oui, parce qu'on est toujours en train de chercher la quadrature du cercle pour trouver la bonne recette pour faire des radios qui montent en tête des sondages. Mais en fait, vous dites souvent que la radio, c'est comme la cuisine. Tout le monde a à sa disposition les mêmes ingrédients. Entre autres, quelques micros et quelques invités qui parlent dans les micros. Mais que tout est dans l'exécution.
Oui, je pense qu'il y a différentes... Je sais pas, moi j'ai pas de recette. Je pense simplement ce que j'ai essayé de faire, aussi bien en tant qu'homme d'antenne que directeur d'antenne, que ce soit sur France Inter ou sur France Musique, c'est que de faire confiance d'abord aux professionnels. Les gens qui ont une voix qui passe à peu près, qui peuvent dire trois mots, qui savent écrire, parce que moi j'ai toujours une religion de l'écrit pour la radio, j'ai toujours écrit pour la radio, enfin dicté en tout cas. Et je pense que aussi... Il faut qu'ils aient un contenu, un minimum de contenu, que ça ne suffit pas de faire du bruit avec la bouche et de faire deux plaisanteries dites de garçon de bain et d'envoyer un disque de rap. Ça, c'est, il y a eu des morts dans la bande FM, c'est normal, parce que on s'est aperçu que l'amateurisme avait ses limites. Moi, je pense que la radio, c'est l'affaire de gens qui savent faire de la radio. Pardon pour cette tautologie, mais c'est évident, c'est banalité, mais je pense que la radio, c'est l'affaire de professionnels. Et les ennuis commencent lorsqu'on confie la radio à des gens qui n'y connaissent rien.
Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui, Pierre Bouteiller?
Tout.
C'est-à-dire?
Ah, mais je vais vous le dire. Moi, j'écoute, je zappe, je suis un zappeur fou. J'écoute France Inter, j'écoute France Info, j'écoute France Musique, j'écoute Radio Classique, j'écoute Europe, RTL, BFM. Oui, non, je suis un...
En fait, qu'est-ce qui vous retient? Parce que si vous êtes un zappeur fou, on sait bien comment c'est, zapper, on passe. En fait, qu'est-ce qui vous retient? Le son d'une voix, l'intelligence de ce que vous entendez, le rythme?
Non, d'abord, c'est l'information. Moi, j'ai toujours la même carte de presse depuis un certain temps.
Allez, ne le dites pas.
16 942, mon numéro.
Ouh.
Bon, et oui, ça ne nous rajeunit pas. Donc, je suis shooté à l'info. Donc, non seulement l'info de radio, mais aussi l'info de presse écrite. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'encre sur les doigts. J'aime bien la presse écrite. Je me shoote d'info. Une fois que j'ai écouté France Info, j'écoute alors effectivement une voix. Il y a des voix qui... C'est l'injustice du monde, hein. Il y a des voix qui passent, des voix qui ne passent pas. Mais s'il y a une voix plus un contenu, j'écoute. Bien sûr, il y a la musique aussi. Je pense que moi, je suis un dingue de musique classique et aussi de jazz. Alors, j'écoute Radio Classique, j'écoute France Musique quand il y a de la musique, ça peut arriver. Et c'est vrai, je plaisante parce qu'à un moment, j'avais dit en forme de plaisanterie que quand il y a de la grève, quand il y a une grève, Radio France, qui paraît-il arrive parfois, que lorsqu'on entend de la parole, on est sur France Musique et lorsqu'on entend de la musique, on est sur France Info. Bien sûr, ces heureux temps sont très loin. C'était une manière de boutade. Donc j'écoute beaucoup la musique classique, Radio Classique et France Musique. J'écoute également, il y a une radio de jazz qui s'appelle 89.9, qui est assez bien programmée, qui était la radio qui avait créé le défunt Franck Thénault. Donc j'écoute tout, mais effectivement, il faut qu'il y ait quand même, pas seulement de la musique. Moi j'ai besoin qu'on me parle. Moi qui dors assez mal, j'écoute la radio la nuit et j'écoute culture parce que j'ai besoin, j'ai pas envie d'une moquette musicale, d'un ruban. Vous savez, les gens qui sont abonnés au gaz, à l'électricité, au téléphone et à la musique, ça coule tout le temps. Non, j'ai besoin qu'il y ait une parole, de préférence en direct. Moi, je suis pour le direct. C'est pour ça que vous me parlez tout à l'heure. Je parle un peu dans le désordre. Vous parlez du procédé podcast, très bien, mais le podcasting. Le podcasting, c'est très bien, mais. Le podcasting,
c'est de la viande froide.
C'est voilà, vous savez, c'est la grande différence qu'on dit entre le théâtre et le cinéma. Au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Et moi, je pense, et on est là pour le prouver tous les deux, Kathleen, on est là en direct. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'entendre, surtout si c'est une mission d'actualité ou qui traite l'actuel, ça ne m'intéresse pas d'entendre 6 heures après quelque chose par le procédé du podcasting. J'ai besoin de quelqu'un parle et je l'entends. Et ça, c'est formidable. Et c'est irremplaçable.
Alors, tant pis pour vous, je vais vous faire quand même encore, pour finir cette émission, écouter quelque chose qui a été dit en 1999. C'était lors de votre dernière émission. Et ça donne peut-être une des clés qui fait qu'on reste attaché quand même.
Dites-moi, Pierre, je voulais vous poser une question personnelle. Vous aussi, il me semble, parce que je voudrais savoir comment on survit à Radio Hostile. Vous aussi, vous avez été, à un moment donné, vous avez été chef, puis plus chef et tout ça. Alors, comment on fait comme ça pour être chef, pas chef, devenir chef?
Je ne sais pas. Moi, Jean-Marie Cavada m'a fait ressurgir parce que j'ai des brevets de résistance. Parce que de 95 à 98, j'ai caché des professionnels sous l'occupation amateur. Alors, c'est peut-être pour ça. D'autres questions?
Et non, pas d'autres questions, puisque l'heure nous a rattrapés. Cher Pierre Bouteiller, merci d'être venu ce soir chez vous, dans votre radio, à Sur France
Inter. Chez vous, Kathleen, merci à vous de m'avoir accueilli, invité. Tout le monde n'a pas votre professionnalisme et vos élégances.
Je vous remercie, mon cher Pierre, de ces bonnes paroles. Et pour ceux qui voudraient continuer la conversation avec vous, je rappelle que ces souvenirs de radio sous le titre Radioactif sont parus chez Robert Laffont. À très vite, Pierre Bouteiller. Je vous rappelle que ce soir, dans L'Humeur Vagabonde, vous avez pu entendre un programme musical spécial, Pierre Bouteiller. Art Mango, Si tu partais, Chet Baker, My Funny Valentine et Claude Nougaro, Lille Hélène, c'est fini pour nous, mais on se retrouve demain. Restez groupés.